Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. On va parler du désir ce soir, en compagnie de trois écrivains dont les livres tournent autour de ce mot, désir, ce mot qui nous fait tant de bien, qui peut nous pousser à nous dépasser, mais qui peut aussi parfois nous entraîner vers des précipices. Le désir, c'est quoi au juste? Comment ça marche? Est-il toujours transgressif? Pourquoi nous met-il en marche? Quelles sont ses lois? Avouez que pour répondre à toutes ces questions, il nous faut des poètes. Vous savez, ces individus précieux qui regardent le monde autrement, qui nous aident à trouver beau ce qui est banal et transforment la platitude des mots de tous les jours en une immortelle déclaration d'amour. J'accueille Sophie Nolot, Henri Gougaud et Souleymane Diamanka. Bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir et de vous réunir tous les trois ce soir. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Sophie Nolot. Vous êtes la directrice artistique du Printemps des Poètes qui se déroule actuellement et jusqu'au 29 mars prochain. Alors, de façon virtuelle hein, cette année, sans public pour cause de virus pas poétique, vous publiez aux éditions Actes Sud un essai qui tient de l'autobiographie et de l'anthologie. Il s'intitule « Ce qu'il faut de désir ». Que faut-il de désir pour mener sa vie comme on l'entend ? Ben c'est la question qui traverse votre livre, Henri Gougaud. Ben bonsoir oui. Henri.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir. Voici votre vie, j'allais dire enfin racontée, et pas à n'importe qui, à votre fils, c'est à lui que oui. Vous vous adressez, dans « J'ai pas fini mon rêve », très beau livre qui revient sur les désirs d'un gamin d'Occitanie monté à Paris pour devenir chanteur, qui croisera Ferré, Ferrat, Brassens et Barbara, deviendra conteur à la radio et écrivain adepte des mots. Et puis... Alors je dois dire que je suis tombé dans l'univers poétique de quelqu'un qui jette un pont entre l'oralité et la littérature, entre le monde des anciens et le monde de demain, entre l'Afrique et le vieux continent. C'est Souleymane Diamanka. Bonsoir Souleymane.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir sur ce plateau.
Merci pour l'invitation.
Vous êtes né à Dakar, au Sénégal. Vous êtes d'origine peul, ouais. À l'âge de 2 ans. Vous avez rejoint votre père, parti en France. Mmh. Vous avez grandi à Bordeaux, dans la cité des Aubiers. Ouais. Vous avez commencé par la musique et la chanson, exactement comme Henri Gougaud. Mmh. Alors vous, c'est le hip-hop,
puis oui, le slam. À l'adolescence. Mais ouais. J'avais déjà rencontré la poésie dès l'école primaire, en fait.
Ah, on va y revenir sur cette rencontre initiale avec la poésie, ce qu'elle déclenche, ce qu'elle peut, ce qu'elle sait faire. Habitant de nulle part, originaire de partout, c'est le titre de votre troisième ouvrage, publié dans la toute nouvelle collection Point Poésie, en poche donc, collection dirigée par le romancier Alain Mabankou. Avant de parler de désir, j'aimerais qu'on parle, puisque vous avez lâché le mot, Souleymane, de poésie. Ah oui, je suis désolé, hein. On va en parler. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que par ces temps de Covid, elle est encore plus requise, la poésie. Que peut-elle faire, d'ailleurs ? Que peut-elle nous apporter, la poésie ? Pourquoi faudrait-il lire de la poésie ? Sophie Nolot.
D'abord, ce n'est pas obligatoire du tout. Mais je pense qu'après...
C'est peut-être bien de le rappeler. Mais
oui,
il n'y a aucune injonction.
Non, il n'y a aucune obligation. Pas d'obligation. On peut même ne pas la lire, on peut l'entendre, on peut la croiser, on peut la découvrir, on peut se laisser rencontrer. En fait, ce que je trouve assez beau avec la poésie, c'est que c'est souvent l'inverse. En fait. C'est un poème qui vient à votre rencontre et qui n'a pas forcément cette démarche de vouloir aller vers. Un poème est... Alors, pourquoi ne pas le faire ? Ce serait dommage, en effet, de renoncer à cette... À cette part d'enchantement, à cette part de rudesse aussi, parce que le poème vous met face à une réalité qui peut être crue, qui peut être... C'est pas forcément ourlé et poétique, un poème.
Ça nous met face au réel. Henri Gougaud, la poésie, disait Sophie Nolot. Vous êtes d'accord avec cette approche ?
Oui. Je suis d'accord, bien sûr. Moi, mais je dirais plus généralement, moi, que la poésie, c'est la vie. C'est la vie même. La poésie, c'est notre côté... Le côté de notre intelligence sensible. On oublie quand même, peut-être, on mélange peut-être parfois un peu trop l'intelligence sensible, l'intelligence pratique, rationnelle. On est des êtres rationnels, il faut l'être, logique, intelligent. mais aussi, on est aussi des êtres sensibles. Et le langage de l'être sensible que nous sommes, c'est la poésie.
On y reviendra, mais dans votre livre, vous avez une belle expression pour parler à un moment d'Albert Camus. Vous dites, s'il y a des lettres, il y a des mots qui soulèvent les foules, lui, il fait mieux, il remue le cœur.
Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Voilà, le tribun soulève les foules, le poète remue les cœurs. Oui.
Souleymane Diamanka, vous nous disiez tout à l'heure, vous êtes tombé tout petit dans cette poésie. Aujourd'hui, vous êtes slameur, vous êtes poète, vous animez des ateliers d'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire, habiter poétiquement le monde, vivre en poète?
Ça veut dire remarquer que la poésie, elle est partout, en fait. Elle n'est pas seulement dans les recueils, elle est dans tout ce qui narre la sensibilité des gens en colère, dans les expressions qu'ils vont exprimer. Il y aura de la poésie, les gens qui sont amoureux, dans leur manière de s'exprimer, il y a de la poésie. Une maman qui éduque son enfant, il n'a pas encore les mots, elle est obligée de faire des comparaisons, de faire des métaphores pour lui expliquer le monde qui l'entoure, et on est déjà dans la poésie. À parler de soleil qui se couche et qui se lève, de telles expressions qui me font le cœur, tout ça. Je pense que, surtout la langue française, dès qu'on est dans l'émotion, on est déjà dans la poésie. Et après, se dire poète, c'est juste agglomérer tous ces mots, leur faire de l'espace pour pouvoir les partager. Mais ils sont toujours là, la poésie, on grandit avec.
Je lis quelques-uns de vos vers, c'est page 38 dans votre recueil. « Nul n'est poète en son pays, et pourtant j'ai vu ceux qui suent et ceux qui saignent devenir ceux qui sèment les mots qui soignent. »
Et ça, je l'ai aussi vu.
Ça soigne la poésie ? Ça soigne vraiment.
C'est sûr. Et surtout chez les Peuls, il y a des mots qui guérissent, il y a des mots qui donnent de la force, il y a des mots qui portent bonheur. Moi, juste avant de faire cette émission, ma mère m'a fait plein de bénédictions. Mmh. Et elle y croit. Les mots, ils ont une vibration. Et les mots d'amour, c'est par là que l'amour passe pour aller d'un cœur à l'autre. Et même l'amour fraternel, il y a Yvon Lemaine qui disait que la poésie, c'était la langue fraternelle. Mmh. Et je crois à ça.
Quel est votre mot porte-bonheur ?
Le mot « mot ». Parce qu'il habite tous les autres mots sont à l'intérieur.
Oui, c'est ça. Mmh. Henri Gougo, votre mot porte-bonheur ?
Je n'en ai pas.
Allez, du tac au tac.
Le mot porte-bonheur. La vie.
Sophie, Nolo.
Sésame.
Sésame.
Oui, j'aime bien.
Pourquoi ?
J'aime bien le pouvoir magique des mots. J'aime bien croire que tant qu'un mot est là, tant qu'on dit un prénom, tant qu'on dit un nom, personne ne meurt. Je crois beaucoup à cette force de l'invocation des mots et du sésame ouvre-toi. Ouais.
Explorons ensemble les multiples versants du désir. Ce qu'il faut de désir. C'est le titre de votre livre, Sophie Nolo. Déambulation à travers les arcanes du désir. Alors, et c'est ça qui est passionnant, depuis les troubadours du Moyen-Âge et jusqu'aux poètes contemporains, en réalité. Le désir, thème principal du printemps des poètes. Mais j'aimerais qu'on commence tous ensemble, si vous le voulez bien, par essayer de comprendre ce que c'est le désir. Parce que vous, je ne sais pas, mais pour beaucoup de ceux qui nous regardent ce soir, comme pour moi, le désir, c'est une énigme. Ah, d'où vient-il ? Lui qui nous entraîne au-delà de nous-mêmes. Enfin, il est supposé le faire. Il peut nous faire vivre. Mais reconnaissez qu'il peut aussi nous faire périr, le désir. Qu'est-ce que c'est que ce drôle d'oiseau qui nous meut, que l'on cherche, que l'on chasse et qui parfois nous harcèle et qui souvent nous dépasse ? Sophie Nolo.
D'abord, il est là bien avant nous. Il y a cette phrase très belle dans votre livre quand vous dites que vous venez de l'étreinte de vos parents. Et oui, on est tous là parce qu'il y a eu un désir à un moment. Et je suis très... très habité par ça, et je crois beaucoup à cette attraction. On parle toujours de l'attraction céleste, terrestre, la terrestre qui fait tomber les pommes. Moi, je crois à cette chose du désir qui, tant que c'est là à l'intérieur, nous tient debout, nous garde, nous aide à vivre, à respirer, à aimer, à perdre, mais à traverser ça. Je crois vraiment que, pour avoir beaucoup réfléchi à cette question-là des mots et des intitulés, après le courage pour le printemps des poètes, je me disais, s'il n'y restait plus qu'une chose pour tenir bon, qu'est-ce que ce serait ? Et je crois que c'est le désir.
Est-ce que ça se force, le désir ?
Oh ben, si ça se force, c'est plus le désir, c'est la contrainte.
Ah !
Non, le désir, pour moi, c'est ce qui nous pousse à aller jusqu'à demain, au moins jusqu'à demain, quoi. C'est le moteur de la vie, ce qui nous pousse à aller jusqu'à demain. Et finalement, le rôle des poètes, à mon avis, c'est d'entretenir le désir d'aller jusqu'à demain, et encore demain, et encore demain.
Le désir reste le but suprême, disait une grande poétesse que vous citez, Emily Dickinson. Ah. Et pourtant, c'est bizarre, parce que c'est pas pour l'amour qu'elle est restée célèbre, Emily, qui resta confinée. jusqu'à l'âge de 55 ans, quasiment seul.
C'est pour sa vie solitaire, vous pensez ?
Oui.
Oui, en même temps, pour tenir bon dans cette vie-là, il faut avoir un sacré feu intérieur. Et donc, je pense que oui, il faut ce désir pour, non pas se lever le matin, mais pour y croire et pour aller jusqu'au soir et pour avoir envie de, du lendemain, pour avoir envie de cette aurore. Enfin, oui, moi, je crois vraiment que la volonté, on peut la forcer, la volonté, on peut la travailler, la volonté, on la tient, la volonté, elle s'en... Enfin, voilà, on nous éduque à ça. Le désir, on ne vous l'apprend pas.
Alors ça, vous le notez, et c'est vrai que ça fait partie des grands paradoxes. Vous le dites dès les premières pages, à l'école, on nous dissèque l'anatomie de la copulation, les appareils génitaux en quelques séances, mais on ne nous dit rien du désir. Et on nous laisse nous débrouiller, si jeunes, avec le désir. Il faudrait non plus des cours d'éducation sexuelle, mais des cours de désir, d'éducation au désir.
Pas forcément d'éducation, mais en tout cas qu'on puisse en parler. Moi, je suis toujours assez estomaquée de voir qu'on mesure la taille, qu'on prend le poids, enfin qu'on voit comment le corps se développe. Mais pour autant, tout ce qui est la sensibilité, la sensation, enfin ce que sont nos corps, ce qui leur manque, ce qu'ils attendent, ce qu'ils espèrent, on ne nous laisse pas entreapercevoir. Donc après, c'est la chance d'un destin, de croiser les belles personnes, d'être aimanté par des choses. Mais oui, moi, je trouverais formidable de pouvoir grandir avec à la fois cette chose qui est qu'on remplit les têtes, enfin qu'on donne de quoi penser soi-même, de quoi avoir les mots, mais aussi de quoi savoir qui l'on est, ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est tellement étrange, c'est tellement dur de grandir.
Comment faire pour aider celles et ceux qui ne sentent pas le désir ? Vous le savez très bien qu'il y en a. Notamment à l'adolescence, ces jeunes qui se disent « mais en fait, je ne désire rien. Je suis seul, je me sens seul. Le désir n'est pas pour moi. » Qu'est-ce que vous leur répondez à celle-là, à cela ?
D'abord, je pense que c'est un moment important, cette adolescence, où en effet, on a à la fois ce feu et cette absence. Et je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. Heureusement qu'on passe par des montagnes russes et par des envies de mourir demain pour voir ce qui se passerait et en même temps de vivre. Donc, il n'y a pas de recette, il y a juste pouvoir se dire tout d'un coup, on parle de tout, mais on ne parle pas de nos corps. Donc, tout simplement poser des questions, tout simplement pouvoir tendre un livre, tendre un film, faire écouter une chanson, enfin, juste célébrer cette chose que l'on couvre, que l'on cache, que l'on... Enfin, voilà, il faut bien se tenir, il faut être droit, mais c'est tellement important de savoir comment ne pas toucher le micro. Enfin, comment être en soi, comment être incarné, parce que si c'est que dans la tête, ben, il nous manque quand même 95% de ce que nous sommes. Et le désir révèle ça. Le désir, ça vibre ou ça vibre pas. C'est comme un instrument. C'est comme si, voilà, c'est comme un instrument qu'on laisserait comme ça silencieux, en pensant que tout est dans la tête. La tête, on peut forcer, on peut travailler, mais si on n'est pas dans son corps, c'est dommage.
Si c'est comme un instrument, est-ce que je peux apprendre à bien jouer de mon désir, à le modeler peut-être, pas le forcer, mais en tout cas faire en sorte que mon désir s'harmonise au mieux.
Oui, s'harmonie, je ne sais pas, mais en tout cas, écouter son corps, savoir ce qui résonne, savoir ce que l'on aime, savoir ce que l'on n'aime pas. Moi, j'aurais rêvé, adolescente, qu'on m'aide, qu'on m'en parle, qu'enfin, voilà, que ce ne soit pas une chose ou gênante. Et aujourd'hui, que plein de choses se révèlent, que la parole se libère, qu'on dit plein de choses qu'on a encaissées, alors qu'on avait le droit de dire ah, ben, finalement, j'étais peut-être pas d'accord. Ou finalement, ben, réapprenons ça, en fait. Enfin, apprenons à... Aujourd'hui, le verbe toucher, il est devenu tabou. Alors que...
Mais aujourd'hui, on ne touche plus.
En plus, on ne touche plus avec le virus.
Voilà, mais oui, mais geste barrière, ne nous touchons plus.
Mais c'est grave. Parce
ça tue le désir ?
En tout cas, ça tue l'élan. En tout cas, ça enfin, on est tous comme ça, là, en permanence, à se tenir loin. Enfin, ça, oui, je pense que, encore, nous, on est adultes, on est vastes, enfin, on a vécu des choses, déjà. Mais pour les enfants, les adolescents, enfin, les jeunes qui grandissent aujourd'hui, comment déployer son corps alors que tout est fait pour qu'on soit refermé comme ça ? Je pense que c'est capital et qu'il faut qu'on en parle.
Vous vous rendez compte à quel point une expression comme geste barrière, élever des barrières entre les gens, c'est nécessaire, sans doute, aujourd'hui. Mais quand même, qu'est-ce que ça suppose ? Élever des barrières entre les gens alors que... le désir même, le désir, moi je crois que c'est la vie même, je l'ai dit, qui nous pousse sans cesse en avant, qui nous pousse les uns vers les autres, barrière.
Est-ce que précisément, il n'y a pas un lien que l'on est en train de voir avec ce nombre croissant de gens qui le disent, vont mal, essentiellement chez les jeunes, plus il y a de
gestes
barrières, certes nécessaires, moins le désir est présent.
Oui, ben comme non, si la société non, moi je ne crois pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a du désir. S'il y a de la vie, c'est qu'il y a du désir. Mm. Même les adolescents que vous évoquiez, Sophie, qui n'ont plus de désir, je crois que si. On a toujours du désir, sinon on est mort. Mm. Sinon, on s'éteint, quoi. C'est comme on est comme une chandelle qui est épuisée, qui a plus de feu.
Je voilà. pense justement qu'avec tous ces gestes barrières, le désir, il est en train de grandir, en fait.
Oui.
Parce que le désir, il se nourrit aussi du manque.
Voilà.
On est très meilleur, on a passé beaucoup de temps loin de lui. Quand on le retrouve, ces retrouvailles-là sont exceptionnelles. Et je pense que quand l'humanité va retrouver un train de vie normal, ce désir, il aura grandi. Et peut-être qu'on va se savourer un peu plus les uns les autres.
Oui. On va se savourer un peu plus. Mmh. Se goûter. Oui.
On reste encore, hein. Puisque vous aimez les mots, quel mot définit le mieux ce qui est à l'œuvre dans le désir? Est-ce le manque? Tiens, je vous en propose quelques-uns. Ou alors l'aspiration? L'envie? Ou l'espoir?
Est-ce que ce n'est pas un cocktail de tout ça?
C'est peut-être un cocktail de tout ça. L'espoir, je ne dirais pas non. Il n'y a pas. Mais l'élan, vous n'avez pas dit l'élan?
Non, j'ai pas dit l'élan.
Ouais. Moi, je verrais ça plutôt. Le désir, c'est un élan vers l'avenir, un élan vers demain, un élan vers une rencontre, un élan vers un miracle. On attend. Je ne sais pas vous, moi, tous les matins, j'attends un miracle.
Mmh. Est-ce qu'il arrive?
Parfois oui, parfois non. Quand il n'arrive pas, ben, ça sera demain. Mais il y a toujours ce désir d'aller jusqu'à demain. Mais il a été maltraité, ce mot. Il a été maltraité parce qu'on l'a collé à la concupiscence, au désir sexuel. Mais le désir est beaucoup plus vaste que ça. Et évidemment, la concupiscence, le désir sexuel, si on le laisse aller, il peut mener à des dérives très condamnables.
Mais il est transgressif aussi, ce mot, non? Il appelle la transgression, c'est aussi pour ça qu'on l'aime, non?
Non, il appelle la transgression de lois qui ont été édictés par le monde et qui nous interdisent de faire ci ou ça, alors que lui, le désir, c'est le vent, c'est le fleuve qui va.
Alors, pour comprendre la force de révélation à l'œuvre dans le désir, Sophie Nolot, il faut plonger avec vous du côté des origines et du côté des poètes, peut-être des poètes qu'on ne lit plus, qu'on a oubliés. On a souvent l'impression qu'on retrouve ou qu'on découvre le monde. Tiens, regardez, en ce moment, MeToo, le consentement. Sophie Nolot nous dit, mais attendez, et les troubadours, et le fin à mort, et la Renaissance. Oh, alors là, quels exemples incroyables. Allez, on y va. On va prendre quelques exemples. Commençons par elle. Le désir au féminin, vous lui consacrez des pages très très belles. J'ai découvert, je l'avoue, hein,
mais
grâce
moi aussi,
à vous,
hein, moi je
Pernette
à
du Guillet. Qui était Pernette du Guillet dont on va dire ce vers sublime?
Je vous laisse le dire, je ne les connais pas tous par cœur. Mais ce qui est très beau avec Pernette, c'est que d'abord, c'était celle que Maurice Sève aimait.
Donc, grand poète hein, de la Renaissance, on est sous François Ier, il est à Lyon, c'est lui qui organise pour le Royaume de France toutes les cérémonies. À l'époque, la poésie, c'est peut-être un petit peu comme le slam aujourd'hui. Il y a des concours. Non, c'est vrai.
Oui,
il y a des grands concours. Dès qu'un roi rentre dans une ville, on demande aux poètes de venir. Imaginez qu'aujourd'hui, on demande aux poètes quand le patron, le président ou un président d'un pays étranger vient en voyage. Ce serait pas mal, ça.
Oui, il y a du chemin.
Mmh. Oui, ben voilà, on le faisait à l'époque.
Pernette du Guillet, donc elle a été aimée par Maurice Sève et c'est magnifique parce qu'il a écrit des dizaines, donc des poèmes de 10 strophes. Il y en a un volume comme ça, épais. Et elle a été beaucoup éclipsée par Louise Labbé, dont on se demande a-t-elle existé. Enfin, donc on cite toujours Louise Labbé et rarement Pernette du Guillet aussi parce qu'elle a été assassinée par des critiques de l'époque qui ont trouvé ses vers assez mièvres. Enfin, voilà. Et il y a ce vers magnifique où elle explique en effet, alors c'est dommage de le dire comme ça, mais vous le lirez derrière sûrement, que certes elle accepte qu'on la marie, elle accepte son mari et il est assez formidable pour avoir fait publier ses vers juste après sa mort, ce qui est quand même assez...
Oui, c'est-à-dire que c'est quand même ce que vous racontez, c'est l'histoire d'un vol littéraire.
Non, pas du tout.
Ah, bah quand même, non. C'est-à-dire que c'est lui qui fait publier.
Oui, mais il y a son nom,
Il s'approprie tout de même un petit
non,
peu.
C'est
le...
beau. Ah non, François, rendez-vous compte qu'elle était aimée par Maurice Sève, qu'elle dit de son mari dans des poèmes, elle dit je me plie à son vouloir, mais de temps en temps j'aimerais quand même qu'on entende mon désir, c'est quand même pas rien. Et elle fait pas l'éloge du mariage et elle meurt très jeune et son mari publie ses poèmes qui quand même racontent l'envie d'échapper au mariage. Donc, moi je trouve que...
Elle meurt à 25 ans,
ouais, hein, de la peste.
Donc c'est... pas l'impression que son mari récupère un tout petit peu son nom et ses poèmes ?
Ah non, moi j'ai plutôt l'impression qu'il est sacrément généreux parce qu'il aurait pu dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte ? Ça ne va pas sortir. » Ah non, moi je... Pour une fois, il ne faut pas tout le temps dire du mal des hommes. Là, il était pas mal.
Mais je vous le droit pour nos deux cœurs repaître que son vouloir fut joint à mon désir. C'est du vieux français, mais on pourrait presque le traduire par « Mais je voudrais pour repaître nos cœurs que sa volonté » fut jointe à mon désir.
Oui, totalement. Ça
c'est
accorde.
La question du consentement qui est posée dès le XVIe siècle.
Voilà, en tout cas, c'est l'idée que lorsqu'on est deux, c'est assez formidable. Si les deux, enfin, si tout s'accorde, y compris jusqu'à cette question du désir où l'on croit toujours qu'il faut plaire à l'autre, faire plaisir. Enfin, et c'est vrai que j'étais assez sidérée quand j'ai redécouvert ce vers de Pernette Duguillet, de me dire waouh, enfin, on a ça, quoi. Ouais. On n'a pas besoin d'aller chercher MeToo qui dit une chose évidemment forte et capitale, mais qui malgré tout est dans la passivité, qui dit « moi aussi ça m'est arrivé ». Là, elle dit « j'aimerais que ça ne m'arrive pas ou que ça ne m'arrive plus ». Ce n'est pas la même chose.
Et on a pratiquement à la même époque une autre chose qui est très très forte également. On l'a sous les yeux, on ne la voit pas. C'est quand même fou. Vous la connaissez forcément, cette tapisserie. La dame à la licorne. C'est peut-être avec la tapisserie de Bayeux la plus célèbre au monde. Elle est au musée de Cluny. À Paris, regardez-la, la dame à la licorne. Alors vous allez me dire, mais quel rapport ? Ben c'est très simple. Quelle est la devise de la dame à la licorne, Sophie Nolot ?
Il est inscrit en haut, mon seul désir, ou bien à mon seul désir. C'est la grande énigme, parce que ça n'est pas sûr que ce soit un A. Il se peut que ce soit une initiale au début, une initiale à la fin.
Mais vous rendez compte, c'est quand même génial.
Bien sûr.
On est au XVIe siècle, et on dit mon seul désir, comme un étendard qui claque, comme un ordre, comme... une apostrophe.
Ben oui, mais le désir s'est toujours battu contre la contrainte. La contrainte des lois, des règles, des religions aussi, des règles... le désir a toujours buté sur ces lois et a toujours combattu contre. Oui, on peut brandir le désir comme un étendard. Pour moi, encore une fois, c'est l'étendard de la vie, de la célébration de la vie.
Et vous écrivez, alors vous remontez encore plus loin, hein, Sophie Nolot, là on était au XVIe siècle avec la dame à la licorne et avec Pernette. Allez, allons faire un tour 2-3 siècles auparavant avec les troubadours. C'est un plaisir addictif, tiens, addictif, addiction, désir. Bon, c'est un plaisir addictif que de s'immerger dans les cantilènes d'amour des troubadours et de remonter la source jusqu'au mascaret du désir. Que nous disent-ils les troubadours à 7 ou 8 siècles de distance aujourd'hui ?
D'abord, je suis un peu rougissante de parler de troubadour devant Henri Gougaud. Et je trouvais ça magnifique à la fin du Souleymane. Le premier titre qui est cité dans le Point Seuil, c'est votre poche, Poésie des troubadours, anthologie. Et là, tout d'un coup, je me dis, ça, c'est des vraies constellations. Et moi,
alors, on va redire aux téléspectateurs qu'Henri Gougaud, entre mille choses qu'il fit dans sa vie, fit redécouvrir, au début des années 80, les troubadours, il y a eu l'érotique des troubadours de votre maître René Lény, mais il y a eu aussi tous vos livres qui ont permis de mettre la poésie des troubadours dans les bibliothèques.
Bien sûr,
pour aller
et
vite,
en poche.
Les troubadours ont opéré une révolution sur laquelle nous vivons encore. Ils ont inventé le sentiment amoureux, l'amour cordial, comme on disait, c'est-à-dire l'amour du cœur, à une époque où la femme était réduite à ses fonctions, la vierge, la mère ou la putain. Ils inventent la compagne. Ils inventent la compagne. Ils ont opéré une révolution. D'ailleurs, l'Église ne s'y est pas trompée parce que les troubadours ont été assez sévèrement réprimés et interdits de parole. Parce qu'ils tenaient un discours... purement révolutionnaire pour l'époque. La femme était reconnue comme la compagne.
Et comme un emblème aussi. Toutes ces histoires d'amour, de l'amour de loin. Geoffrey Rudel. Tombe raide amoureux de la comtesse de Tripoli, alors qu'il ne l'a jamais vue. Juste sur le récit, là encore l'oralité, juste sur ce qu'on lui raconte de sa beauté. Et qui va traverser les océans pour aller la rencontrer. Déjà fou d'amour pour elle.
Et c'est la façon dont on le raconte, c'est évidemment les mots
qui est magnifique.
Qu'on tombe pas amoureux. Donc on a du désir.
Oui, vraiment.
Alors, les troubadours, mais on peut aller aussi chercher, tiens, du côté de Michel-Ange, Michel-Ange, qu'on connaît comme sculpteur, mais qui est aussi un grand poète, dont on a découvert récemment sa poésie. Et là, évidemment, je me pose la question, mais finalement, est-ce que le désir peut être satisfait? Écoutez bien ce que disait Michel-Ange. « Seigneur, accordez-moi la grâce de toujours désirer plus que ce que je peux accomplir. »
C'est grand.
Oui, c'est formidable.
Plus que ce que je peux accomplir. Bon, question simple. Est-ce que le désir est voué à l'insatisfaction, Sophie Nolo?
Pas pour moi. Encore une fois, moi, le désir, c'est ce qui m'aimante, c'est ce qui m'émeut.
D'accord,
c'est ce
mais qui me... je désire toujours plus.
Non, mais on peut aussi jouir de ce qu'on désire.
C'est infini,
enfin, c'est
le
pas.
Désir.
Oui, mais c'est pas forcément à contenter. Je ne crois pas à cette satisfaction du désir. Ça voudrait dire que c'est comme la faim. On a faim, on mange, et ou on a soif, on boit. Le désir, c'est autre chose. Donc, moi, en tout cas, pour moi, le désir, c'est une chose toujours. Ascensionnel, quoi. C'est pas quelque chose qui rabote ou qui. Enfin, en tout cas, je ne veux pas en être frustrée, donc je me sens pas du tout dans cette chose-là.
Souleymane disait tout à l'heure, le désir, c'est aussi du manque. Est-ce qu'on manque pas toujours de quelque chose?
Et c'est aussi, je dirais.
Pardon. Oui, non, on le voit.
Une course après l'horizon. Le désir, on essaie de l'atteindre, on court après lui, mais il recule.
Ouais.
On l'atteint pas, mais on a parcouru du chemin, en fait. Et ce chemin-là, c'est quelque part notre satisfaction. Mais le désir qu'on a en tête et dans le cœur, c'est difficile de le satisfaire pleinement. Mais le fait d'aller vers lui, ce voyage-là, nous nourrit.
Attrape-moi si tu peux, en quelque sorte.
Ouais. C'est difficile de l'attraper. C'est un peu la phrase qu'on lit là.
De fait, il me semble que la satisfaction du désir est peut-être un faux problème dans la mesure où il se renouvelle sans cesse. Il renaît sans cesse de ses cendres. Le désir, c'est un phénix. Il renaît sans cesse. Donc, il nous pousse toujours à aller plus loin, plus profond.
Des troubadours à Apollinaire, en passant également, tiens, par celui-là que j'adore, Antonio Machado. Entre la vie et le songe, il est une troisième chose, désir-là.
Bon, là, on l'a un petit peu tiré vers le désir, parce qu'en espagnol, c'était devine cette troisième chose. Mais c'est tellement beau, Machado.
Ce qu'il faut de désir, Sophie Nolo, c'est aux éditions Actes Sud. Faire naître le désir de lire, ah, ça c'est le pouvoir des libraires. Les libraires indépendants, vous le savez, on va les visiter chaque semaine dans cette émission. Et là, je vous emmène ce soir à Saint-Mandé, c'est dans le Val-de-Marne. On part à la rencontre de Marie-Ève Charbonnier. Alors pour elle, comme pour vous trois d'ailleurs, il me semble, la poésie c'est la vie. Et elle est partout. D'ailleurs, elle a appelé sa librairie Parole, en hommage, devinez. Bah oui. Prévert, suivez le guide, Inès de la Motte-Saint-Pierre.
La poésie, pour moi, c'est tout le temps. C'est le matin quand je me lève, c'est le soir quand je me couche. On vit en poète parce qu'on s'émerveille, parce qu'on regarde, parce qu'on attend, parce qu'on est là au monde. Alors, la poésie dans la librairie, elle est partout. D'abord, elle s'appelle Parole, c'est le nom d'un célèbre recueil de Jacques Prévert. Elle est au sol parce que les distances de sécurité, ben, on les vit mieux en lisant un peu de poésie devant soi. Alors, moi, j'adore glisser des poèmes dans les mains des jeunes qui viennent nous voir parce que justement, ça leur parle d'eux, en fait, la poésie. Ils écrivent de la poésie en permanence, sans même forcément le savoir. Et la poésie, ça électrise. C'est le bruit, c'est la fureur de vivre aussi. Un objet littéraire non identifié, je dirais, Éric Poindron, Comment vivre en poète. D'abord, ça ressemble à rien, ce livre. Il y a une préface qui fait le tiers du livre. Il y a des morceaux de phrases, il y a des citations, il y a des mots qui ouvrent des portes. Moi, je mets au défi n'importe qui de le prendre et de ne pas avoir envie d'écrire. Mon poème préféré, c'est Les Djinns de Victor Hugo. Ça démarre comme ça. Mur, ville et port, asile de mort, mer grise ou brise, la brise, tout dort. C'est un poème qui est rempli de chaos, de fureur, de mystère. Il est rythmé, il est presque musical. Et voilà, ça me transporte et ça continue de me transporter. Et je pense que c'est pas fini. La poésie contemporaine, elle est extrêmement vivace, mais s'il y en a une à retenir, que moi qui me transporte, c'est Cécile Coulon. Elle parle du quotidien et en fait, elle le sublime. Et elle a toujours des phrases très, très percutantes. C'est vraiment la poétesse d'aujourd'hui pour moi. Un conte moderne à lire là tout de suite, c'est Borgo Vecchio de José Calatura. Ça se passe à Palerme et la langue est somptueuse. Il y a des scènes incroyables de poissons qui s'envolent dans le marché. Moi, j'ai jamais vu ça sinon dans Gabriel Garcia Marquez. Et vraiment, c'est voilà, c'est un vrai conte des temps modernes. Alors, la poésie qui m'électrise, je dirais Maram Al-Masri par La Fontaine de ta bouche. Alors déjà le titre, bon, je n'en dirai pas plus, je ne vais pas le décortiquer là, mais vraiment, c'est d'une sensualité folle. Elle parle d'amour, elle parle de sexe, elle parle d'envie, elle parle de désir. Et c'est splendide.
Et on continue de parler de désir, et puisque le désir, c'est la vie, nous disait Henri Gougaud, allez, plongeons dans la vie d'Henri Gougaud. J'ai pas fini mon rêve, est publié aux éditions Albin Michel. Vous revenez, Henri Gougaud, dans ce livre sur vos rencontres, mais aussi sur le sens de votre parcours. Alors, je le rappelle brièvement, vous êtes né en 1936 dans un petit village à côté de Carcassonne. Les gens qui nous regardent ce soir, se souviennent sans doute de votre voix, parce que pendant 10 ans, Henri Gougaud a animé, souvenez-vous, chaque jour sur l'antenne de France Inter, Le Grand Parler, cette émission dans laquelle vous racontiez un ou deux contes venus du fond des âges, ou bien du coin de la rue, du bout du monde ou de nos provinces. Vous avez publié de très nombreux recueils de contes, de poésie, oui. Des romans. Vous avez écrit des chansons également. Pour Jean Ferrat et Serge Reggiani, chanter avec Brassens et Léo Ferré, contribuer à faire connaître la poésie des troubadours, Sophie Nolot le rappelait tout à l'heure. En lisant votre livre, je me suis dit, ah, il y a une scène fondatrice, me semble-t-il, Henri Gougaud, elle se déroule à l'adolescence. Un libraire de Carcassonne, oui. Un jour, vous laisse emprunter gratuitement, oui. Incroyable, gratuitement, des livres de poésie. Quel âge avez-vous et que découvrez-vous alors ?
Monsieur Castres, je le revois encore. J'avais 16 ans, j'étais au lycée, première, je crois. Et j'étais passionné de poésie, mais de poésie orale à cette époque-là. Parce que le soir, j'écoutais la radio, il n'y avait pas de télé. J'ai été seul à écouter la radio, l'oreille collée au poste, pendant que mes parents, mes grands-parents ou les amis faisaient la belote dans la salle à manger à côté. Moi, j'étais dans la cuisine, j'écoutais la radio. Et à la radio, passaient des Brassens, passaient Félix Leclerc, passaient Juliette Gréco, passaient des gens comme ça. Et j'écoutais ça et je me disais, mais moi, c'est ça que je veux faire. Moi, c'est ça que je veux être. C'est les textes qui me touchaient le plus. Je voulais être ça. Et c'est à cette époque-là que j'ai dit à mon père, parce qu'on demande toujours aux adolescents qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard.
Oui. Et comment a-t-il réagi, votre père ? Cheminot, résistant ?
Oui.
quand vous lui avez dit, je vais être poète.
Et il m'a dit, oui, très bien, d'accord, mais à part ça.
C'est vrai que ça n'a pas changé depuis 1950, on dit encore ça, malheureusement.
C'est là que... c'est là que l'inquiétude gagne les parents. Je ne me suis pas rendu compte à cette époque-là, mais enfin bon. Et donc, j'étais à l'affût de livres de poésie. Et en sortant du lycée, tous les jours, je passais devant la librairie de M. Castres, qui était toujours sur le pas de sa porte, à regarder passer les gens. Moi, je m'arrêtais devant la vitrine. Et un jour, il m'a dit, mais tu peux rentrer si tu veux, tu peux regarder. Je suis rentré, je suis allé droit au rayon de poésie qu'il m'a indiqué. Et c'était, alors là, c'était en fait la naissance de la plus belle collection de poésie du monde. C'est Poète d'aujourd'hui, édité par Pierre Segers.
Segers, ouais.
Et là, j'ai lu, voilà. Et quand il a vu que j'étais intéressé, il m'a dit... Si t'as pas d'argent, d'accord, mais si tu veux, je t'en prête un, je te le prête. Tu fais très attention de ne pas casser le dos du livre, parce que si tu le casses, je ne pourrais plus le vendre. Quand tu l'as lu, tu me le ramènes et tu en prends un autre. Et c'est comme ça que M. Castres, libraire, m'a initié à la poésie, aux surréalistes, à Desnos, à Breton, tout ça.
Premier choc, écrivez-vous, Robert Desnos.
Robert Desnos.
Qu'est-ce qui se passe quand vous tombez dans les mots de Desnos ?
C'est-à-dire que déjà, je sais comment il est mort. Et déjà, je connais le poème d'Aragon, « Je pense à toi, Desnos, qui partit pour Compiègne,
comme un soir en dormant, tu nous en fis récit. Enfin bon, c'est, déjà pour moi, c'est une légende.
Déporté pendant la guerre.
Déporté pendant la guerre.
Et Compiègne, mort. Et il meurt à Theresienstadt.
Voilà.
Et il meurt juste quelques jours après la fin de la guerre.
Ouais, du typhus, voilà. à quelques jours de la libération du corps.
Et, voilà. Et un infirmier le reconnaît.
Ouais, ben je lis Death Note, je trouve Death Note dans la collection Poète aujourd'hui, je le lis. Moi, j'étais au lycée. Les poésies qu'on nous apprenait et qu'on lisait, c'était des poésies classiques, en vers classiques, etc. Lui, il écrit en vers libre. Qu'est-ce que je fais? Je porte délibérément mon exemplaire de Death Note en classe de français que je pose sur le coin de la table en me disant que ça allait faire râler mon professeur de français. Au contraire, ça l'a fait rigoler, il me l'a dit plus tard.
Ça vous a libéré, parce que vous racontez dans ce livre que finalement, le bon élève que vous étiez devient insolent.
Grâce
à la poésie.
La poésie, oui, ma découverte de ces gens-là, de cette liberté, de cette... Je n'imaginais pas pouvoir faire autre chose que ça, moi.
Mais le même acte aujourd'hui, ce serait peut-être de prendre le livre de Souleymane Diamanka et puis de le mettre comme ça sur le pupitre devant le prof.
Mais il ne le sait pas. Je crois qu'il est certain qu'il va inspirer des vocations. C'est sûr, tu ne le sauras jamais en plus.
J'aimerais en tout cas.
Vous découvrez Death Note, vous découvrez le vers libre, vous découvrez l'immense liberté de la poésie, alors que, et vous l'avez dit, c'est très important, on l'enseigne de manière souvent codifiée. On a le sentiment, Henri Gougaud, à vous lire, que toute votre entreprise, compter à voix haute, ressusciter les troubadours, est précisément une façon de casser les carcans, d'être dans ce qui est libre.
Oui. C'est-à-dire que... Bon, j'oppose peut-être de manière un peu artificielle les lois du monde à celles de la vie. Moi, je suis de toute façon du côté de la vie. Les lois du monde, elles sont mortelles, elles sont comme ça, elles sont contraignantes, elles sont... Bon, elles sont utiles aussi, je veux dire, c'est pas... Mais elles permettent de vivre ensemble, de vivre en société sans trop se taper dessus les uns les autres. Bon, très bien, il faut. Mais moi, je ne voulais plus que ça. Quand on est adolescent, tous les adolescents, ils veulent beaucoup plus que ça.
Vous êtes un grand adolescent, dites-moi, pour continuer à tenir le même discours.
Mais j'ai l'impression de ne pas avoir grandi d'un pouce depuis cette époque-là.
Souleymane, vous savez comment je m'appelle, ce genre de discours?
Comment?
Ce bonhomme?
Dites-moi.
Un anarchiste.
Avant?
Ah bah oui, un petit côté anard.
Moi j'aurais dit un poète qui n'a pas d'âge. Parce que la première fois que je l'ai rencontré, j'ai d'abord été surpris par sa présence. C'est après qu'on m'a dit qui c'était. J'étais en train de réciter des poèmes, il y avait cet homme qui m'écoutait avec plus qu'une écoute, quoi. Je suis jongleur et quand quelqu'un me regarde et que c'est quelqu'un qui sait bien jongler, même s'il jongle pas, je vois dans son regard qu'il sait. Il a une manière de regarder très spéciale. Et dans sa manière de m'écouter, je savais que c'était quelqu'un qui était en train de faire grandir mes mots parce que c'était quelqu'un de la parole, quoi. Et après, quand je l'ai découvert, j'ai rencontré Aurélien qui est dans son livre, j'ai rencontré Bernadette. Et c'est une oralité déjà dans la conversation avant que ce soit dans un livre. Il y a déjà de la poésie, c'est déjà un conteur que j'entends, moi.
Comment le conte est-il entré dans votre vie? La poésie, on comprend. Vous montez ensuite à Paris, comme on dit à l'époque. Vous voulez être chanteur, vous faites les cabarets. Ah, les soirées à l'Écluse, il y a des pages magnifiques. Oui, hein. Oui. Oh là là, et puis vous nous ressuscitez Albert Vidalier, quelques grands ivrognes.
Albert, le grand Albert.
Le grand Albert. Bon, là, on ne peut pas. J'adorerais faire une émission sur les boissons avec Blondin, Vidalier et les autres, mais on va faire de la poésie. Le conte. Quand et comment arrive-t-il dans votre vie, Henri Gougaud ?
Il commence à arriver dans ma vie au cours de mes années d'études. J'ai fait des études de lettres à Toulouse et j'avais comme prof de troubadour, en fait, René Nelly, qui faisait un cours sur les troubadours, mais qui, par ailleurs, qui était de Carcassonne comme moi, et qui, par ailleurs, faisait de la collecte il était ethnologue aussi, faisait la collecte de contes dans la vallée de l'Aude, comme ça, dans les Corbières. Et de temps en temps, je l'accompagnais pour demander aux gens du coin de raconter leurs histoires. Et un jour, on tombe sur un texte, un conte, bref. Et me vient une question. Cette histoire-là, apparemment anodine, peu vraisemblable, on ne peut pas croire à ce que, hein, ce que les animaux parlent, etc. Il a traversé cette histoire-là, a traversé les générations, a traversé les siècles. Et elle ne s'est pas perdue. Alors que tellement d'œuvres réputées immortelles à leur époque se perdent dans les sables du temps, les contes qui ne sont rien que de petites histoires, qui n'est rien que de la littérature pour illettrés, eux, ils durent.
Comment l'expliquez-vous ? Parce que ce sont des petites histoires, comme vous dites, mais ça, il faudrait en discuter. Souvent dites par les petites gens, comme on dit, avec beaucoup de mépris. Comment expliquez-vous que ce qui vient, allez, comme ça, du sol, mais aussi du peuple, dure plus que l'œuvre immortelle ?
Mais moi, je suis du peuple. Mon éducation, mes racines, j'ai eu des parents, des grands-parents, résistants, syndicalistes. J'ai été élevé là-dedans, moi. Donc le peuple, c'est important pour moi, même si on ne peut pas donner une définition précise du peuple. Mais enfin bon. Et de fait, j'ai découvert assez rapidement une littérature orale qui était la culture des illettrés, la culture des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Alors évidemment, les lettrés méprisent ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas comme eux, mais n'empêche que
ça a changé. Pardonnez-moi, mais vous n'avez pas l'impression que ça a changé, ça ? Ce regard qui fut peut-être à un moment condescendant n'a-t-il pas bougé ? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une revalorisation précisément de l'oralité,
J'espère, mais je ne suis pas sûr, parce que, vous savez, elle a été d'abord méprisée parce que c'était, comme je dis, la littérature des illettrés. Ensuite, quand les hommes, les premiers, ont appris à lire, les gens du peuple, c'est devenu des histoires de bonnes femmes. Voilà. Et puis, quand les femmes ont su se lire et se cultiver, c'est devenu la littérature pour les enfants. C'est-à-dire, c'est toujours la littérature des pauvres d'esprit, quoi. Voilà. Alors que tout est dans les contes. Je veux dire, je ne sais pas. Je vous le dis parce que ça me vient à l'esprit. Vous devriez un jour faire une émission sur les contes, sur cette littérature-là qu'on n'explore jamais.
Bah, et les conteurs sont souvent invités dans cette émission, vous savez.
Non, mais je rigole.
Qu'est-ce que je trouve dans un conte que je ne trouve pas dans un roman, dans une poésie ou dans un essai d'histoire, Henri Gougaud ?
Je ne sais pas, d'abord, un conte, c'est une histoire qui a traversé le temps. On parle de conte moderne, de conte d'aujourd'hui. On verra dans 1000 ans s'il est toujours là. S'il est toujours là, ça pourra devenir un conte. Mais d'abord, vous savez ce que disent les Romains Les Romains, ils parlaient du fatum librorum, vous avez entendu ? Le destin des livres, le destin des œuvres. Tant qu'une œuvre est nourricière, elle se débrouille pour être là, pour continuer à exister. Si l'œuvre disparaît et meurt, c'est qu'elle ne nourrit plus les gens à qui elle s'adresse.
Est-ce que ça veut dire que chaque conte détient une sagesse ?
Je dis que chaque conte détient une nourriture. Elle nourrit la vie. Elle nourrit de façon extrêmement mystérieuse. Ne me demandez pas comment, j'en sais rien. J'ai constaté, par exemple, tout le monde, je crois, peut constater ça, que les gosses, les enfants, à un certain âge, ils demandent toujours les mêmes contes, les mêmes histoires. Ils ont besoin de s'entendre raconter la même chose et parfois même la même séquence de contes. Oui. Voilà, parce que ça, on dirait que ça structure quelque chose dans leur esprit. Et ils se trouvent... Alors, bon... C'est de la littérature pour les enfants. Non, c'est comme si on disait que la pomme est un fruit pour les enfants sous prétexte que les enfants peuvent manger. Mais le vieux aussi, il peut la manger, la pomme.
On prend un exemple.
Il ne trouvera pas la même chose dedans.
On se prend un exemple ? Tiens, si vous nous disiez un conte, là, maintenant, ce soir.
Ça, c'est traître, alors.
Oh, vous les connaissez par cœur.
Oh, ben... Bon, oui, j'en connais... Tiens, c'est un conte qui parle du désir, en fait. C'était un désert silencieux
paisible. Un désert sans faute, un désert sans rien, sans le moindre brin de buisson bruissant. Il y avait le ciel, il y avait le sable, il y avait le vent et une souris. Il y avait l'amour. L'amour est partout, surtout au désert, où rien ne l'arrête, ni piège, ni mur. L'amour infini avait fait son nid dans le cœur du vent et de la souris. Sans cesse, elle disait au bord de son trou, « Vent, je veux te voir. » Le vent répondait, « Souris, m'aimes-tu ? Tu emplis ma tête, mon cœur et mes sens, disait la souris, mais tu vas, tu passes, tu n'es jamais là. Le vent murmurait, viens que je caresse ton ventre, ton dos, ton joli museau. Oh oui, je te sens, disait la souris, oh tes mains, ton souffle, oh tes yeux, dis-moi, comment sont tes yeux, et ton front, ta bouche. Te voir, vent, te voir comment t'aimais bien sans jamais te voir. Un heureux matin, lumière tranquille, dune alanguie, le vent répondit, pour l'amour de toi, je vais t'apparaître avec mes vraies mains, avec mes vrais yeux, ma poitrine nue, mes cheveux défaits, et tu me verras tel que Dieu m'a fait. Attends, je reviens. Plus un souffle d'air, silence, soleil, paix, sieste du sable, la souris, béate, attendit le vent. Soudain, du lointain, vint un sifflement, une nuée grise envahit la dune, un tourbillon noir vint au bord du trou, un géant poudreux se mit à hurler, « Souris, me vois-tu ? Ma mère m'a dit que j'étais superbe, dis, regarde-moi, dis, suis-je assez beau ?» Tu sais maintenant, mais c'est moi maintenant qui ne te vois plus. Tu sais, je peux être encore plus grand, encore plus fort, plus vivante encore. Mais où es-tu, souris, je ne te vois plus. Dis-moi que tu m'aimes encore et toujours. Elle n'entendait plus. Elle entendait trop. Elle s'était terrée au fond de son trou. Elle tremblait de froid, grelottait d'effroi. Tempête, bourrasque, ouragan, vertige. L'amour est ainsi quand il vient tout nu. Elle ne savait pas. Et voilà, c'est tout.
Ouais. C'est de l'impro, hein. Bah oui, oui. C'est ça, un conte.
Un conteur, Sophie Nolo. C'est un poète.
Moi, je suis trop sensible, ça me fait pleurer. Je trouve ça magnifique.
Oui, je vous vois au bord des larmes.
Mais oui, parce que c'est ça, c'est ça la vraie vie. C'est ça quand ça vibre, c'est ça quand ça dit, c'est ça quand ça pulse. Enfin, moi, je trouve ça, ouais, je trouve ça magnifique.
Voilà, mais oui, peut-être et... aussi, parce que la poésie, on ne peut l'enfermer nulle part,
oui,
dans aucun
mais,
genre.
Mais être capable de l'offrir comme ça et de la partager, je trouve ça immense. Et j'avais noté que la première phrase de votre livre, c'est un alexandrin. À ce que l'on m'a dit, je suis née après terme. Ça a de l'allure quand même. Nicky Pitt qui est un alexandrin.
Plus c'est vrai, oui, ben voilà.
Souleymane Diamanka, quand vous êtes vous sur scène, est-ce que comme Henri Gougaud, vous retrouvez tout à coup cet oubli de soi et cette concentration sur l'émotion qu'on peut procurer?
Oui, bien sûr.
Tout à l'heure, Henri disait, ah mais finalement, c'est pas la raison qui compte, c'est le cœur. On l'a entendu, on l'a vu, on est voilà, pendu à ses lèvres quand il
premier,
parle.
Le premier texte que j'ai lu de Souleymane, c'est mon fils, c'est Aurélien qui me l'a fait lire. Et c'était « L'arignard ». Et j'ai trouvé ça, rien que le titre, pour moi, ça recouvre toutes les traditions des contes de tous les temps. C'est l'arignard, les contes. C'est l'art des gens qui ne savent rien.
J'aime beaucoup l'expression « la littérature des illettrés ».
Voilà, oui.
J'ai inventé un mot par rapport à ça, « oralittérature ». Parce que quand j'entendais mes parents parler, je me disais, on ne peut pas vraiment les considérer comme des incultes, c'est juste qu'ils ont une autre culture, mais c'est riche. Et de coller les deux mots, « oralité » et « littérature », et d'en faire « oralittérature ». Et je suis fasciné, on a senti qu'il s'est passé quelque chose là, quand il a pris la parole. Et je suis fasciné par cette prise de parole. Je fais ça depuis longtemps, de dire des textes en public, mais j'ai des repères avec les rimes. Je sais exactement où je suis dans le texte et dans la musique du texte. Mais d'entendre un texte récité comme ça, sans rime, ou juste ça existe, quoi. Et il n'y a pas de bafouillement, il n'y a pas d'hésitation, il y a tout un relief. Des fois, c'est chuchoté, des fois, c'est dit fort. Tout ce que tu as prononcé, j'ai tout vu. J'ai vu le vent, j'ai vu la souris, et j'ai senti l'atmosphère changer, quoi. Et c'est ça, pour moi, le conte. Et c'est pour ça que ça ne vieillit pas et que ça ne meurt pas. Et que ça traverse les siècles, ça traverse les guerres, ça traverse les frontières. C'est un mystère. Il paraît que... le conte Le Petit Chaperon Rouge, il existait au XIIIe siècle déjà en Asie.
La première version écrite du Petit Chaperon Rouge, elle est chinoise et je crois que c'est au VIIe siècle. Okay. La première version écrite. C'est-à-dire que quand on écrit un conte, c'est que déjà on a peur de le perdre. Mmh. Et j'imagine ce Petit Chaperon Rouge arrivant jusque chez nous, à pied, comme ça, de bouche à oreille, comme ça, à travers les guerres, à travers les mers, les montagnes, tout ça. Elle traverse le monde, tranquille, et elle arrive jusque chez nous, chez Perrault. Tiens, voilà, et Perrault la raconte. C'est quand même... Vous connaissez beaucoup d'œuvres comme ça, vous ? Qui voyagent comme ça, sans que rien ne l'arrête ? Il faut quand même que ça parle aux gens. Qu'est-ce que ça leur dit ? Je ne suis pas pour autopsier des contes, moi. Je ne suis pas pour savoir ce qu'ils ont dans le ventre.
Vous n'êtes pas médecin légiste ?
Non.
Est-ce que les mots aident à chasser la peur ? En vous lisant, j'ai eu le sentiment que oui. Par exemple, si je vous dis « la vie est méchante », Henri Gougo ne comprend pas ce que vous êtes en train de lire. « La vie est méchante ». Lui, il comprend, comme moi. La vie aime et chante.
Mais c'est un conte, ça. C'est pas de moi, c'est un conte.
Même le mot sésame, on peut le détacher, entendre
sésame.
C'est le langage des oiseaux, c'est fascinant.
Il y a c'est ce que vous pratiquez lectures. Aussi, Souleymane.
Oui.
Hein,
oui.
Ces jeux de mots, mais qui consistent à casser le sens et peut-être à remettre. Parce que là, dans ce conte, Henri Gougo, mais que vous. C'est presque votre devise. La vie est méchante, devient la vie est méchante. Mmh. Je prends le malheur, paf, je le tords, et le malheur devient presque un bonheur.
Mais oui, mais parce que on peut. C'est une question de regard, tout ça. C'est une question. Il y a quelqu'un qui m'a appris, qui m'a dit un jour ça. Tu sais, les mendiants dans la rue, ils te tendent la main. Tu crois que c'est pour te demander un sou, mais c'est pas pour te demander un sou. C'est pour te tirer hors de ton indifférence, de ta misère intime. C'est une façon de voir les choses aussi, au moins aussi juste que de dire bêtement, le mendiant, il demande un sou, il tend la main. C'est vrai, il me tend la main pour demander un sou. Mais on peut voir ça différemment, non ?
J'ai l'impression, quand je vous écoute et quand je vous lis, que vous réconciliez les conteurs et les poètes. Et il y en a un qui est très important pour vous, parce qu'il parcourt tout votre livre et évidemment toute votre vie, qui est à la fois poète et conteur, c'est Rumi.
Ah ben oui, Rumi. Rumi, le Mesnevi, tout ça, les poètes. Pour moi, Rumi, c'est le plus grand poète du monde.
Cette lumière est mon désir, tiens. Par exemple,
la définition de la vieille.
J'allais dire, c'est le nouveau Rumi. Bah oui, d'une certaine manière, car c'est la nouvelle traduction offerte juste avant sa disparition par Jean-Claude Carrière de Rumi.
Enaal Tajadod.
Enaal Tajadod.
Le père et le savoir, la mère et la saveur, et le fils et la fille et la vérité. Définition de la vérité. Le père et le savoir, et la mère et la saveur, le goût des choses.
Mais ils ne sont pas fâchés, les poètes et les conteurs.
Mais au contraire, ils sont de la même famille.
Ouais.
Enfin, moi, je vis comme ça.
Moi aussi.
Rumi, vous le citez, cette phrase notamment, « La peur n'est qu'une porte d'ombre, traverse-la, sors dans la vie. » Très bien, c'est très beau. Mais très concrètement, Henri Gougo, comment est-ce que je traverse cette porte d'ombre ? Comment est-ce que je m'arrache à la peur ?
Eh bien, ça, c'est, j'allais dire, c'est un secret, mais ce n'est pas un secret, puisque je vais vous dire...
Non, mais dites-nous le secret.
Non, je vais vous dire simplement,
y a une porte, tu vois une porte avec une barre au travers qui t'empêche de sortir. Il y a une seule façon de faire. Et vraiment, oui, je l'ai expérimenté, je peux dire. Tu avances et tu fais comme Harry Potter qui passe sur le quai, tu sais, le quai qui mène à Poudlard.
Okay.
Il faut éprouver pour soi-même que la porte n'existe pas.
Et si tu te cognes, tu fais comment?
Mais non, là, dans ces cas-là, tu ne te cognes pas.
Ouais. Vous n'êtes jamais cogné, vous?
Cogné, si. Moi, je suis tombée, je me suis fait mal, je me suis fait des bleus. Mais bien sûr qu'on se cogne, mais c'est important.
Et il y a les anciens qui nous aident justement à ne pas nous cogner. Il y a un proverbe, Paul, qui est très important dans ma vie, c'est « Kongidi doma nibudu wadama waludeta Allah kiyade ». Ça veut dire que c'est celui qui est arrivé avant toi dans une pièce sombre, qui peut t'aider à évoluer dans cette pièce pour ne pas te cogner partout. Et mon père me disait ça par rapport au respect qu'on devait avoir pour les anciens, que tout leur savoir reposait sur leur expérience. Et comme si la vie était cette pièce sombre, ils étaient là avant nous, ils peuvent nous dire non, passe par ici, passe par là, et que quelque part on peut leur faire confiance parce qu'ils vont nous éviter de nous cogner là où eux se sont déjà cognés, quoi.
Oui, c'est ça, mais c'est voilà, ce n'est pas la porte qui importe. C'est pas la porte qui s'oppose à ce que tu avances, c'est la peur.
Et ben voilà. Quand je vous dis donnez-moi le secret, je l'ai. Il n'y a plus qu'à le mettre en œuvre maintenant. C'est autre chose, ça. Vous écrivez en conclusion de ce très beau livre que vous adressez à votre fils, hein, cette autobiographie, c'est votre vie racontée à votre fils. Vous lui dites ceci. Le but n'est pas d'être meilleur. Souvenez-vous bien de cela. Il est de devenir vivant de plus en plus intensément.
Oui. Explore le champ des possibles. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça.
Pindar. Ô mon âme.
Pindar. Voilà,
ça. Respire pas. Justement, la satisfaction de tout, mais explore le champ des possibles.
Oui,
c'est
oui,
bon, ça aussi.
Oui, oui, être de plus en plus vivant. Oui.
Ouais.
Aimer de plus en plus la vie. C'est curieux, c'est bizarre. Je ne m'imaginais pas la vieillesse comme ça, mais j'aime de plus en plus la vie.
C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait dire à tout le monde, et particulièrement aux jeunes, dans cette société de la performance, de la compétition, où on nous apprend à être meilleur. Tiens, non, un monde où on serait juste plus vivant.
Oui. Voilà, qui est le monde. Bon, et vous avez dit que j'étais anarchiste. Mon anarchisme, il consiste à en finir, si possible, avec les rapports de force, pour les remplacer par des rapports de solidarité, de partage.
On prend. Ouais, c'est tout. J'ai pas fini mon rêve. Henri Gougaud, c'est aux éditions Albin Michel, autobiographie, qui prend au mot la phrase de Rumi, « Fais de ta vie un beau récit ». On a parlé de lecture à voix haute. Ah, vous disiez à voix haute. Allez, on y va. Puisque vous nous avez offert un conte, Henri, à voix haute, moi, je voudrais maintenant vous offrir de la lecture. Et notre concours de lecture à voix haute. 140 000 jeunes se sont inscrits. Ils seront plus que 10 hein, lors de la grande finale au mois de juin prochain, mais c'est pas grave, vous allez voir, c'est un jeu, la vie est un jeu. Pour l'instant, les classes qualifiées se préparent pour un nouveau tour de sélection, et les écrivains, ceux qui passent dans la grande librairie, vous allez y passer tous, hein, partent partout en France, les rencontrer dans des classes, c'est important, leur donner des bons conseils. Tiens, il y a quelques semaines, c'est Franck Bouys qui a rendu visite à la classe de 6e B du collège Rollina à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Regardez bien, Franck Bouys avec les jeunes, filmé par les jeunes eux-mêmes.
Quand on bute sur un mot, quand on ne marque pas la ponctuation, l'oreille, ça ne trompe pas. Alors que dans votre tête, vous pouvez continuer comme ça. Et moi, en fait, c'est un exercice que je fais très fréquemment, de me relire à voix haute, juste pour l'oreille.
Il est un peu stressé aussi.
Et oui. Donc, ne stresse pas. Ne te laisse pas emporter par les phrases, là. D'accord, Mathis ? Allez.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un si petit enfant ? Il serait tout juste bon à boire mon eau. Des flammes jaillissent soudain d'une fenêtre voisine. Toa sent les poils de sa moustache grillée.
T'es pas obligé d'appuyer sur moustache à ce moment-là. Vas-y.
Toa sent les poils de sa moustache grillée.
Ouais. T'as vu, tu t'es retenu un peu. Et tout à l'heure, tu nous as fait un moustache. C'était un truc qui a explosé, quoi.
La pâle lumière du jour était sur le point de disparaître lorsqu'un cri monta au loin. D'abord faible, comme incertain, il enfla brusquement, atteignit sa pleine puissance, vibra et palpita pendant quelques secondes, puis s'éteignit lentement.
Ce qui m'impressionne, c'est la façon, ton articulation naturelle, je sais pas, tu l'as beaucoup travaillé ?
Pas mal.
Ouais. Alors, tu peux aussi, de temps en temps, lever les yeux et puis reprendre. Mais bravo, hein.
Lecture à voix haute. Allez, voici maintenant des histoires venues de loin et qui ne s'arrêtent nulle part. Habitant de nulle part, originaire de partout, de Souleyman Diamanka, vient de paraître en poche chez Point. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette façon que vous avez, Souleyman Diamanka, de jouer avec les mots, de jongler avec les langues françaises et peul, de réinventer l'oralité en la mêlant à la littérature, l'oralittérature, comme vous l'écrivez si bien. Et puis, par-delà, le slam, le hip-hop, le rap, vous nous offrez une poésie bohème qui fait de vous un poémien, finalement, comme dit Oxmo Puccino, qui préface votre livre. Livre publié par l'ami Alain Mabankou, le grand romancier qu'on connaît bien dans la grande librairie. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez découvert très très tôt l'art de dire. Comment la poésie est entrée dans votre vie ? À quel âge ? Comment ? De quelle façon ?
En CE2, j'avais un instituteur au quartier des Aubiers qui était poète, Dominique Boudou. Et il nous a un peu transmis cette passion. À la maison, j'avais les contes, j'avais les proverbes peuls, tout ça. Mais lui, je voyais qu'il privilégiait les mots. Il me disait, t'as le droit d'utiliser les mêmes mots que Jacques Prévert, les mêmes mots que Victor Hugo. Et je trouvais ça fascinant qu'il y ait ce trésor-là et que chacun puisse piocher, en faire ce qu'il veut. Et du coup, dès que j'ai appris à lire et à écrire quelque part, je me suis mis à écrire pour partager. Et j'étais gourmand de mots. On avait un dictionnaire à la maison, un vieux Larousse où il n'y avait plus la couverture. Et j'ouvrais au hasard pour rencontrer des mots que je disais après à mon petit frère, que j'essayais de placer dans des phrases et dans des poèmes. Ça m'a fasciné tout de suite, en fait. Et le fait que la langue peul soit très, très différente de la langue française, j'ai vu qu'elles avaient des richesses différentes. Et rien que la traduction, c'était extraordinaire. Dans la cour de récréation, si je disais à mon frère d'arrêter d'embêter quelqu'un, je lui disais « Atchoum ». Et les gens entendaient « Atchoum ». Et je me disais « Comment ça ?» Dans ma langue, je dis une phrase anodine, ça fait sourire mes camarades qui, eux, parlent le français. Je me disais « Il y a quelque chose à creuser là-dedans ». Et j'ai jamais arrêté, même quand j'ai rencontré le rap, c'était de dire mes poèmes sur cette musique-là. Mais cette richesse qui appartient à tout le monde, ça m'a tout de suite fasciné.
Une chose qui m'intéressait énormément, c'est ça. C'est que vous grandissez, allez, on va dire dans les dernières années du XXe siècle, les premières du XXIe siècle, 50 ans après Henri Gougaud. Quand Gougaud découvre la poésie, il veut devenir celui qui écrira pour Reggiani, Paris Marose, celui qui sera l'égal de Brassens ou de Ferré. Et vous, c'est aussi par la musique. Comment expliquer que ce soit la musique, Ferré, Gréco dans les années 50, le rap dans les années 2000, qui aimante les jeunes lorsqu'ils tombent en poésie?
Parce que la musique, c'est comme une passerelle pour la poésie, en fait. La poésie, elle est là dans les textes de rap, on parlait d'Oxmo tout à l'heure, et la musique, c'est juste un ornement pour la poésie. Et dans les ateliers que j'anime, je me rends compte que si je fais écouter un texte de Grand Corps Malade et qu'ensuite je leur parle de Baudelaire, tout à coup, ils se rendent compte que ça leur est accessible, en fait. Et le rap, c'est pour ça, et que la musique aide aussi beaucoup. J'ai fait ce travail aussi de parolier qu'a fait Henri, et j'ai la chance d'avoir une chanson qui a été interprétée par Henri Salvador. Et ça a été un des plus beaux jours de ma vie, de voir cet homme qui était aussi... que mes parents aimaient et tout ça, et de le voir prononcer mes mots. C'était une chanson qui s'appelait « Que le mot soit perle ». Et je me suis dit, les mots, c'est comme de l'eau qui peut prendre la forme de plein de récipients. Ça peut être chanté, ça peut être dit, ça peut être rappé, ça peut être compté, mais quelque part, c'est ce même trésor où mon instituteur m'a dit « t'as le droit de piocher dedans, quoi ». Et après, ouais, j'ai jamais arrêté. Il y a un gros travail sur la rime dans mon travail. Et je suis fasciné quand j'entends Henri, parce qu'il n'y a pas les panneaux de signalisation que sont les rimes, en fait, pour la mémoire. Et je me dis, mais où est-ce qu'il s'accroche pour se souvenir? Et ça me fascine.
Vous accrochez à la rime, vous, quand vous avez quelque chose à dire?
Oui, pour la mémoire, pour réciter. Je sais que si j'ai fait telle rime multisyllabique, c'est la même qui va venir en dessous. Si ça termine par telle consonne, je sais que c'est la même qui va venir. Ça fait que ça me rassure au niveau de la mémoire. Et j'ai rencontré d'autres poètes qui n'utilisent pas du tout cette musique-là de rime. Et je trouve cette musique-là plus subtile. C'est comme si les gens qui venaient du rap, on avait une écriture horizontale avec la rime qui venait en fin de vers. Et les conteurs et les autres poètes, ils ont une musicalité verticale, en fait. C'est devant soi, c'est en soi, et ça va jusqu'à la terre. Et ce sera peut-être la prochaine étape. J'ai mis des poèmes dans ce recueil-là où il n'y a pas de rime, oui. Et c'est l'étape d'après. J'espère qu'un jour, je deviendrai conteur, parce que moi, pour moi, le conteur, il y a tout dedans.
Mais vous
c'est
l'êtes.
C'est un chanteur,
vous l'êtes déjà,
c'est un poète.
T'as qu'à
vous
décider,
l'êtes déjà.
Oui, j'attends. T'as j'attends, j'explore encore.
Oui, ça, c'est juste.
J'explore encore.
Ça, c'est du grand gougo. T'as qu'à décider. Ben voilà. Donc, je décide non, d'être conteur et je suis conteur.
Il a tout pour faire un grand conteur.
Vous savez que Henri anime des ateliers de contes. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé si je pouvais participer à ces ateliers. Il m'a dit non. Il m'a dit non, continue de faire ton chemin avec les mots, tout ça. Je ne vais pas mettre...
Je t'ai dit non parce que j'avais l'impression que je ne pouvais rien t'apprendre. Tu savais tout. C'est pas... Voilà.
Attends, à chaque rencontre, j'apprends en fait.
Mais ça, on apprend toute la vie. Mmh. Mais ce que... Ouais, t'avais pas besoin de ça.
Ça vous est arrivé, hein, ça, vous le racontez dans votre livre. Ça vous est arrivé également, vous, d'aller voir des gens quand vous étiez jeune parolier débutant, lorsque vous chantiez comme ça, vos chansons, et qu'on vous dise, mais en fait, allez, deviens prof. Mais viens pas demander des conseils. Oui, mais c'était une façon de vous dire, trace ta route, trace ton chemin.
Ça. Oui.
Vas-y, tu peux le faire, et d'ailleurs, tu as tout.
Oui.
Ça veut dire aussi de ne pas demander la permission, en fait. En art, c'est notre création, c'est un peu comme nos enfants. Et on n'attend pas que les gens autour de nous nous disent si notre fille c'est beau, notre fille est belle. On les a fait avec amour, ils sont là, ils existent. Et rien que pour ça, on leur donne tout notre amour. Et je pense que les gens qui t'ont dit « reste prof », c'était quelque part te dire « ton chemin, il est déjà tracé ». Et c'est pas à moi de te dire si t'es apte ou pas à faire ce métier-là.
Oui, c'est vrai. Mais oui, mais il y a des moments comme ça, des mots qui... des situations. Mais je veux juste dire... au début, quand j'étais à Paris, je chantais dans les restaurants où je pouvais, je faisais le saltimbanque. Et évidemment, je cherchais sans cesse, comme quelques autres, à placer des textes à des chanteurs connus ou des chanteuses connues. Puis ça, j'y arrivais pas et tout. Puis, je sais pas, un jour, par hasard, j'ai le numéro de téléphone de Bourvil. J'appelle Bourvil. Il me dit, eh bien, venez. Je vais chez lui, tout de suite, comme ça. Et puis, il regarde mes textes et il m'a dit, ne vous découragez pas, vous êtes un poète. Mmh. Et je veux dire, le mot juste, le mot qu'il faut au moment où il faut, quoi. Parce que j'étais au bord de tout laisser tomber.
Il ajoute même une chose, vous le racontez, n'écoutez pas les malveillants.
Oui. Mmh.
Qu'est-ce que ça veut dire, très exactement, Souleymane Diamanka, habitant de nulle part, originaire de partout? Parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même originaire du monde Peul.
Oui, et c'est une expression pour désigner les Peuls, justement. C'est Amadou Ampateba qui, dans une interview, avait sorti cette expression en disant que le Peul, c'était l'originaire de partout et l'habitant de nulle part. Et nous, dans notre éducation, nos parents insistaient pour nous éduquer en Peul, pour qu'ils aient assez de mots, justement, pour nous éduquer, et pas nous éduquer avec le peu de mots qu'ils avaient en français. Ils étaient conscients que l'éducation, c'est de l'amour, et l'amour, il a besoin de beaucoup de mots pour pouvoir s'exprimer. Et du coup, à la maison, c'est comme si j'étais au village, en fait. Dès qu'on passait cette porte-là, c'était interdit de parler français, même entre nous, on devait parler peul. Ça fait que cette parole-là, et tous les adages, tous les aphorismes, tous les proverbes et les dictons, les contes, j'ai baigné là-dedans, tout en vivant à Bordeaux. Et dès que je sortais, voilà, j'étais en France, j'étais à Bordeaux, tout ça, j'étais à l'école, il fallait ramener des bonnes notes. Mais dès que j'étais à la maison, ils avaient créé cet espace-là où j'étais habitant de nulle part et originaire de partout, parce que j'avais beau être bordelais, mais on me racontait que ma famille, elle venait de la vallée du Nil et qu'ils étaient là à l'époque des Égyptiens, tout ça, qu'ils ont traversé toute la ceinture du Sénégal. Certains sont arrêtés au Cameroun, d'autres au Tchad, tout ça. Et nous, notre famille, les Diamanka, qui viennent des Djaoubé, les Djahogo, on s'est arrêtés au Sénégal, au Fouladou, mais que c'est par accident. Je peux avoir des cousins éthiopiens, des cousins guinéens, tout ça. Et je me disais, mais en fait, on est partout. Et maintenant, il y a des Peuls aux États-Unis, il y en a en France, il y en a partout. Et c'est la même langue qui voyage. Et c'est une langue extraordinairement riche. Parce que déjà, il y a des rimes dans cette langue-là. Quand ma mère parle, on dirait qu'elle récite un poème. Pour dire cette eau, elle dirait dam diyam. Il y a la sonorité qui revient. Si je dis ce monsieur, je dirais o gorko. Si je dis ce chemin, je vais dire ngol lawol. Et je me rends compte que dans ma manière de jouer avec le français, j'ai rajouté ce qui était déjà dans ma langue. Et il y a beaucoup de choses, c'est pas que je les ai étudiées, elles sont là naturellement. Mmh. Mais j'ai rencontré des linguistes après qui m'ont dit « Non, non, ça, ça porte des noms savants, ça, c'est une rime équivoquée, ça, c'est une paronomasse, tout ça. » Et le linguiste en question, je lui ai dit « Tu m'as offert tous tes diplômes, en fait. » Parce que c'est ça aussi, les rencontres artistiques. On a des choses en nous qu'on exprime de toutes ses forces. Mmh. Et il y a des gens qui étudient ces choses-là et tout à coup, les chemins se croisent. Et ça montre qu'il y a plusieurs écoles.
On est au cœur, là, dans ce que vous dites, Souleymane, d'une question absolument passionnante. Et on l'aborde souvent dans cette émission. Mmh. C'est le rôle, précisément, de l'évolution de la langue française et la manière dont des parlés, pas seulement ce qu'on appelle les patois, hein, parce que vous en parlez beaucoup, vous, Henri, des patois de Occitanie notamment, mais la langue peul, la manière dont on s'exprime dans les rues de Dakar, la façon dont les gitans du Sahel vont raconter une histoire, est-ce que tout cela peut revigorer la langue française ?
C'est en train de le faire. C'est en train de le faire. Et même le rap, souvent, on voit le côté social ou les mots un peu osés qu'ils utilisent. Mais j'allais citer un ancien rappeur de Bordeaux qui dit « Demain, si je meurs, ne porte pas de fleurs, mais souviens-toi du son qui sortait de mon cœur. » C'est MC Shai qui disait ça. Il n'a jamais sorti de disque. Et on avait juste ces cassettes audio qui circulaient dans tous les quartiers de Bordeaux. Et je trouve ça magnifique. Je trouve ça super beau et ça dit l'oralité, ça dit l'espoir, ça dit le genre humain, c'est très très fort.
Sophie Nolot, le printemps des poètes, c'est le printemps aussi de ces jeunes poètes, de ces jeunes poètes qui ont choisi le rap et qui n'ont jamais publié un album, qui n'ont même pas leur vers édité en livre.
Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, évidemment. Mais je trouverais important qu'on dise ce que c'est que ce mot Peul. Parce qu'on croit, enfin d'abord, ou on ne sait pas, ou on croit que c'est un petit endroit, tout petit en Afrique, des griots. C'est gigantesque, la langue Peul. Ça couvre un territoire immense. Donc c'est important aussi de l'expliquer, de le rappeler. Parce que vous parliez d'inculture, de choses comme ça, et on oppose toujours les gens qui seraient cultivés. Mais moi, j'y crois pas à ça. Et moi, j'ai besoin qu'on m'explique ce que ça veut dire, le mot Peul.
Le mot Peul, la langue, c'est le Fulfulde, et ça vient du mot Poulard. Et Poulard, les anciens, ils disent que ça dit Pouldodohala, c'est celui qui a commencé la parole. Dans les vieux adages Peul, on dit que Adam, c'est Adama, et c'est une phrase en fait. Ça veut dire Adama, il a été amené. Et on nous explique aussi en Peul qu'il n'y a pas de nom propre. Tout est phrase. Par exemple, la tour Sinaï, on m'explique le modo. Que ça vient d'une phrase, en fait. Et j'ai deux histoires. Il y a l'histoire qu'on m'a racontée à l'école, et il y a l'histoire qui est dans les cassettes de mes parents. Elles sont parallèles, elles ne sont pas racontées exactement de la même façon, mais elles disent la même chose. Juste une petite anecdote. La mer rouge qui s'ouvre, Moïse, tout ça, on m'explique, en fait, que Moïse et les gens qui l'aidaient, ils ont traversé là où traversait le bétail. Il y avait un banc de sable. Le bétail savait instinctivement où il y avait le banc de sable. L'armée de Pharaon est venue à quelques mètres du banc de sable. Eux se sont noyés et Moïse et ceux qui l'accompagnaient sont passés. Et mon père m'explique que pour les gens se souviennent, le griot, le rapporteur de l'histoire, il faut qu'il exagère. S'il exagère, ça va passer de génération en génération. Ouais. On va dire que, voilà, avec son bâton, la mer s'est ouverte, tout ça. Et les gens s'en souviendront, mais c'est le travail des griots de grossir le trait.
Ça marche mieux que d'expliquer qu'il y en a qui ont repéré le banc de sable et pas les autres.
Non, mais le merveilleux, l'importance du merveilleux dans la mémoire.
Et c'est peut-être pour ça que les contes restent. Parce qu'on laisse la place au merveilleux tout de suite. Alors, c'est l'histoire d'une souris qui discute avec le vent. On fait tomber toutes les barrières. On est capable de tout entendre, de tout accepter et de tout vivre. Et je pense que ça aide.
Ce que je trouve très intéressant dans votre poésie, c'est ces passerelles que vous jetez entre les deux mondes, c'est-à-dire d'un côté entre la cosmogonie, Peul, parce qu'ils sont là aussi, les esprits, les anciens, les djinns, ceux qui viennent avec les gitans du Sahel, et puis les barres d'immeubles en asphalte et en béton de la cité des Aubiers. Quand les deux se rencontrent, ça crée des étincelles qui font quoi? Qui allument quel feu?
En fait, ça dit la même chose, juste avec des mots différents. Et par exemple, mon père m'expliquait par rapport aux religions, il disait, nous, ça, là, cet objet, on va appeler ça damal. En français, ils vont appeler ça porte. En anglais, ils vont appeler ça door. Et il me disait, qui a raison, qui a tort? On a plusieurs façons de nommer les choses parce que le monde qui nous entoure nous dépasse. Et personne n'a la vérité. Il me disait, 6 plus 4, ça fait 10, on est d'accord. Et si notre voisin, il te dit que 7 plus 3, ça fait 10, qui a raison, qui a tort? Il me disait, il y a plusieurs façons de rejoindre la vérité. Et quand je faisais se mélanger les univers, je voyais qu'au final, c'est la même chose, quoi. Tout à l'heure, on parlait de peur. Mon père m'expliquait que la peur, c'est utiliser son imagination à ses dépens. Il me dit, c'est toi qui l'as créé, la peur. Mmh. Et si l'humanité vit dans cette peur-là, c'est qu'elle est intelligente, mais quelque part, son intelligence, elle ne la place pas dans le bon canal. Et du coup, elle en souffre.
Pourtant, la peur, elle est omniprésente dans vos poèmes, au point d'ailleurs qu'à plusieurs reprises, vous cherchez, je cite de mémoire, le vaccin contre la peur. Dites-moi, j'espère qu'il n'a pas d'effet secondaire, celui-là.
J'espère que non, mais c'est la parole. Le vaccin, deux ennemis, ils peuvent tout à coup s'asseoir. Ouais. Et s'ils ont vraiment envie de trouver un accord, avec les mots, ils le trouveront.
Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau.
Et ça, c'est un adage.
Sache que le seul combat qui se gagne, c'est le duel.
Qui devient un duo.
Qui devient duo.
C'est tout simple, et c'est des mots d'une maman. Ma mère, elle m'a toujours dit, Sinet Dorondiem Adjangolan. Un Rondondiem, ça veut dire, si quelqu'un est en face de toi et qu'il porte du feu en lui, toi, porte de l'eau, parce qu'à la colère, si tu réponds par la colère, il n'y aura jamais de solution. Et ça, je l'ai entendu tellement, tellement, et qu'en grandissant, je me suis dit, je vais en faire quelque chose. Et ça a donné ce poème, si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Sache que le seul combat qui se gagne, c'est le duel qui devient duo. Je sais que les braves savent se battre et lutter pour leurs droits jusqu'à l'aube. Mais dis-leur que la paix guérit et la guerre périt quand la plus belle âme des deux ennemis pardonne à l'autre. Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau, demain il sera des nôtres. Dehors, ceux qui se nourrissent de l'éclat de l'or essaient de faire peur aux pauvres. Il fait sombre dans les songes que l'orateur Peul colore, mais il paraît que l'heure la plus noire de la nuit précède de peu l'aurore. C'est un texte que j'ai écrit il y a quelques années, mais c'est les conseils de ma maman que j'entends en fait. Et c'est juste prendre cette phrase-là, la dénouer, voir ce qu'il y a à l'intérieur, et il y avait ce poème.
Votre oralité, on vient de l'entendre, elle est, quand vous dites ce texte, déjà presque dans le slam. Mmh. Qu'est-ce que cette manière, ce flow, comme on dit, apporte à la structure de votre poème et de votre pensée?
Dans la structure du poème, pour la mémoire, encore une fois, je sais que dès que j'ai déroulé la première phrase, c'est comme le premier domino. Et après, ça va. Je sais où je vais, en fait. Ouais. Je travaille jamais mes textes de mémoire. C'est juste être dans une certaine émotion, un certain calme, une certaine écoute. Tous les poèmes reviennent à la surface. Je fais pas ce travail-là de les répéter, en fait. Ils sont là quand il y a l'espace pour la parole. Et là, il y est, c'est pour ça que les mots sont venus. Mais aussi, je le dirai toujours de la même façon, avec les rimes placées au même endroit. Et c'est comme faire un geste. Tout à coup, je sais exactement où je suis. Et c'est plus la mémoire qui joue. J'observe juste l'écoute, en fait.
Donc, on retrouve ce que disait Sophie Nolot au tout début de cette émission. C'est le corps, en réalité, qui nous permet d'être poète ou pas. C'est ça?
Et je pense qu'on l'est tous. Et après, c'est accepter de l'être. Mais je pense qu'on l'est tous. Et que... Là, ce que vous nous avez montré dans les vidéos, c'est super important d'offrir des mots aux enfants, de leur faire lire à haute voix, tout ça, des mots qui sont déjà beaux pour qu'ils se rendent compte qu'eux aussi, ils ont cette richesse-là. Souvent, dans les ateliers que j'anime, je leur dis, on vous a dit que d'un côté, il y avait les riches et de l'autre côté, il y avait les pauvres. En fait, c'est pas ça. C'est d'un côté, il y a des gens qui ont énormément de mots et de l'autre, des gens qui en ont pas beaucoup. Tu peux pas te défendre si en face de toi, tu as quelqu'un qui a 25 000 mots et toi, tu en as que 700. Tu pourras pas te défendre. Et même, tu vas vivre certaines choses, tu auras pas les mots pour les exprimer et tu tu vas être un étranger pour toi-même, si tu ne sais pas nommer le désir, on disait tout à l'heure, nommer ton imaginaire, nommer ta volonté, nommer ta personnalité. Et tout ça, c'est les mots. C'est tout
ce la violence, c'est souvent ça, c'est quand on n'a plus les mots.
Ouais. Dire les ouais, exactement.
On devient exactement. Violent.
Apprendre des mots nouveaux, mmh. apprendre à nommer ce que l'on ressent, mmh. et peut-être aussi apprendre à jouer avec les mots. Et ça, c'est votre signature, Souleymane mmh. Diamanka. Tiens, par exemple, ceci. Écoutez bien, il y a comme une harmonie dans la grandeur de la nature que l'être qui porte une arme nie. Lorsqu'il est devenu l'homme, il a ouvert les yeux en se demandant à haute voix « Est-ce que je me réveille ?» ou « Est-ce que je meurs ?» éveille. La nuit n'est jamais revenue.
C'est jouer avec les mots, comme quand on dit qu'un bassiste, il joue de la basse, qu'un batteur, il joue de la batterie. C'est vraiment jouer, s'amuser avec. Et un des conseils que je donne encore aux petits pour les libérer avec les mots, je leur dis tous les mots, ils existent déjà. Donc le poème que tu as envie d'écrire et que tu n'as pas encore écrit, il existe déjà. Mmh. Maintenant, c'est va à sa rencontre. Et pareil, si tu veux écrire un roman, le roman, tu ne l'as pas encore écrit. Mais si tu as ce désir-là, ton roman, tu vas le rencontrer. Je leur dis, on a plein de pensées dans la journée. Les scientifiques qui disent qu'on en a 60 000 ou peut-être plus mmh. pour certaines personnes. Et je leur explique que les gens qui écrivent des romans, c'est juste qu'ils prennent leurs pensées, ils les posent sur le papier. Ce n'est pas un talent particulier. C'est juste se faire confiance, avoir un moment pour soi. Et je leur disais, si chaque jour tu posais 10 mots sur ton cahier, au bout de 10 ans, toi aussi, tu as ton roman. Il existe déjà dans tes pensées, tout ça. Il existe. Maintenant, trouve les mots qui correspondent à tes pensées. Tu auras plein de livres signés de ton nom.
Qu'est-ce qui raconte le roman de Souleymane ?
Là, il est en cours. C'est l'héritage que mon père m'a laissé. Lui, il raconte une autre histoire. La même histoire qu'on m'a appris en histoire géo, mais il la raconte avec ses mots, comme l'histoire de Moïse. Et c'est ça que j'aimerais raconter quand je serai assez mûr, parce que les mots qu'il utilise en Peul, je continue de les découvrir, en fait. À chaque fois, il me dit que les mots, ils ont plusieurs facettes. Et n'écoute pas ce que je t'ai dit, mais ce que j'ai voulu dire. Et je ne suis pas encore à la hauteur de tout ce qu'il a voulu dire. Et quand je le serai, j'écrirai peut-être, ce sera peut-être ça, mon premier roman.
Qu'est-ce que c'est, Souleymane Diamanka, le clan des donneurs de paroles d'honneur ?
C'est les griots. Les griots africains, c'est comme un clan, quelque part. Ils ont cette magie-là avec les mots. Ils passent tellement de temps avec les mots qu'il y a des choses qui naissent, en fait. Dans n'importe quelle discipline, si tout à coup on est concentré sur le fait de comment on taille une robe, comment on cultive un champ, tout ça, la concentration et la méditation, entre guillemets, ça fait naître des secrets. Et comme ils ont passé beaucoup de temps avec les mots, ils connaissent les secrets des mots. Et le clan des donneurs de paroles d'honneur, c'est un peu ça.
Vous annoncez, tenons-nous bien, la révolte des poètes.
Prévient la République et son président, la révolte des poètes sera sans précédent. Et la révolte des poètes, c'est quand tout le monde acceptera de mettre de la poésie dans sa vie. Je suis persuadé naïvement que ce sera la paix sur Terre, en fait. Parce que la poésie, elle n'est pas seulement dans les livres, c'est une manière d'être, c'est une noblesse d'âme. Et beaucoup de conflits arrivent parce que un des deux côtés, ou les deux côtés, des fois, ont oublié leur poésie humaine. Avant d'être dans les livres, c'est une manière de se comporter, une manière d'honorer ce miracle dans lequel on est. Moi, ça me fascine toujours, les pleines lunes, les nuages, tout ça, la vie, respirer, échanger. Je trouve ça juste merveilleux.
Pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous excuser ? Parce que vous avez dit, comme Henri Gougo tout à l'heure, on va peut-être trouver que je suis un peu naïf. Et tous les trois, ce soir, vous avez, de manière superbe, mais vraiment, ça venait du cœur, fait l'éloge de ces mots ordonnés dans un certain sens et qui nous font tant de bien. Mais vous vous excusez. Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour cela. Si on ne la prend pas, cette place-là, tous les médias, tout ce qu'on entend, toute la langue, tout ce qu'on nous assène, n'est pas cela. C'est rare de pouvoir avoir des lieux comme ça où on peut aller au bout d'une phrase, où on peut aller à une résonance, se reprendre, réfléchir. Enfin, ce partage-là, il n'est pas si fréquent dans le monde d'aujourd'hui où c'est l'instantanéité. Vous ne pouvez pas mesurer le bonheur que c'était pour moi de mettre en mode avion. Ce fichu truc-là qui nous... Enfin, tout d'un coup, je me suis dit, j'ai la grande librairie, je peux dire, je ne suis pas là, je mets en mode avion. On est dans un tel rythme de vie qu'on n'a plus... C'est comme si on n'avait plus le droit juste de dire... Et là aussi, le confinement a eu aussi cette vertu-là. de ne pas avoir à s'excuser, de dire je ne suis pas dans, dans l'ordre du monde, dans la productivité. Enfin, j'ai le droit de dire ah ben ouais, si on arrêtait. Moi, ça m'a fait un bien fou de pouvoir dire je n'ai pas à, être, à prendre le TGV, je n'ai pas à remonter, enfin, je n'ai pas à répondre à l'attente qu'on a de moi. Et personne ne nous enjoint à ça, au contraire. Quand Henri Gougaud dit, même ses parents poètes, d'accord, mais sinon, à part ça, pour de vrai, qu'est-ce que tu vas faire? Ça n'a pas tellement bougé.
Comment faire pour chasser ce regard de la société qui a tendance à considérer celui qui aime la poésie comme un naïf?
Je ne sais pas, je ne suis pas... Je ne sais pas, d'abord, je n'ai pas eu le sentiment de m'excuser d'être ce que je suis. Je suis ce que je suis, voilà. Et puis, je crois que, un peu par expérience, que qu'il suffit de raconter une histoire. Que les gens, même les plus éloignés de ce que nous considérons ici comme la poésie, ils sont capables de se clouer le bec devant une chanson, devant un conte, devant un poème. On a vu ça. Tout le monde a vu ça. Hein, les gens les plus durs, les plus éloignés de tout ce qu'on croit. Moi, j'ai vu des gens écouter une chanson complètement fascinés. Je crois que nous sommes tous dans le même bateau. Mais il y en a qui sont à la voile et il y en a qui sont...
aux écoutes. Oui. C'est un beau nom, non ? Les écoutes sur un bateau, précisément. Oui. Sans ça, ça ne marche pas, ça n'avance plus.
Oui, on est tous dans le même bateau.
Il y a... j'aimerais que tous les jeunes qui s'intéressent au rap ou au slam lisent votre poésie, car j'ai l'impression qu'il y a des poèmes qui sont écrits pour eux. Précisément, et on y revient, on a commencé l'émission avec cela, le désir, et le désir peut-être que l'on peut apporter, donner, susciter chez les plus jeunes. Vous écrivez ceci, tu comprendras que tout peut devenir une passion du moment où on s'y intéresse.
Mmh. Eh oui, c'est vrai.
Et c'est ça, j'y crois et je le vois.
C'est peut-être ça qui allume le désir, cette étincelle.
Et aussi leur donner un éventail de choses pour qu'ils aient le luxe de choisir ce qui les intéresse. D'avoir d'autres sources de passion que ce qu'on leur donne tout de suite, le sport, le rap, tout ça, qu'ils aient des éventails plus larges. Et les livres ouvrent à ça. Quand on ouvre un livre, on est face à un horizon qui est différent de la pièce où on est, qui est différent du quartier où on a grandi. C'est le premier voyage. Il est dans les mots et la première richesse aussi.
Habitant de nulle part, originaire de partout, le diamant K. Préface Oxmo Puccino, signé Suleiman, diamant K. Publication Alain Mabankou et sa nouvelle collection de poésie chez Point. Alors, puisque c'est le printemps des poètes, je m'adresse maintenant à tous ceux qui ont envie de lire de la poésie à voix haute. Petite idée, tiens, qu'on vous propose. Choisissez un texte. Filmez votre lecture et postez votre vidéo sur votre compte Instagram avec le mot-clé hashtag 2 pages de lecture. C'est le nom du défi de lecture à voix haute que je vous lance. Tous lecteurs, allez, abonnez-vous au compte Si on lisait à voix haute pour voir tous les autres, parce que vous êtes très nombreux. Et puis ensemble, on réussira peut-être, je l'espère, à faire des réseaux sociaux un endroit où il fait bon lire. Vous êtes déjà très nombreux à vous être pris à ce jeu. Je vous ai préparé un petit florilège, tiens, ça va vous faire plaisir, je pense, la lecture à voix haute, par celles et ceux qui regardent cette émission et qui vous écoutent. Vous allez reconnaître des poèmes de Rimbaud, de Boris Vian, de Léopold Sédar-Senghor. Écoutez.
Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre. Terre promise du haut d'un haut col calciné.
Tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, je vois la faim, qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche, et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil. La main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Science avec patience, le supplice est sûr. Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité.
Et voilà la lecture à voix haute. Que vous appeliez de vos voeux, Sophie Nolo.
Ah, ce n'est pas que moi. Et puis elle existe, c'est ça qui est magnifique. Le printemps des poètes, c'est ça aussi. C'est cette façon de pouvoir sortir de soi ces mots qui ne sont pas à nous et qui... Enfin, l'éternité, voir cette jeune fille qui dit ce petit bout de Rimbaud, ça, c'est comme les contes, quoi. Alors, ça a pas plusieurs millénaires, mais ça tient encore et ça dit beaucoup.
Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci beaucoup Henri Gouveau, Sophie Nolo, Souleymane Diamanka d'avoir été là ce soir avec nous. Je rappelle que vous pouvez maintenant vous reconnecter sur les réseaux sociaux, répondre à la question qui va vous être posée dans un instant et repartir avec tous les livres de poésie, de contes et de littérature, d'oral littérature de nos invités de ce soir. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur le site France.tv. Vous pouvez l'écouter en podcast également sur toutes les plateformes existantes. Et puis, dans un instant, c'est la petite librairie, l'ami Karim Rissouli pour continuer la culture sur France 5. Et la semaine prochaine, tiens, faut-il commémorer les 200 ans de Napoléon, de sa disparition? Ça, je ne sais pas, mais on peut au moins en parler. Et bien, c'est ce qu'on fera la semaine prochaine. Je vous souhaite de belles lectures. À mercredi. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.